Mais puisque je parle des valeurs dites occidentales, je crois que dans ce mouvement-là, il faut aujourd'hui, plus que jamais, se poser la question de la place de l'Occident par rapport à ces universaux dont il s'est proclamé l'énonciateur et gardien pendant quelques siècles. Et donc, l'amalgame continue d'être fait le plus souvent donc entre Occident et universel, alors même, je pense, que l'Occident a cessé depuis quelques années, depuis ces années 80 dont je parlais tout à l'heure, depuis son tournant, a cessé d'être énonciateur universel. Il est énonciateur de mondial, il n'est pas énonciateur d'universel. Et ce différentialiste postmoderne, puisque en fait, je n'ai pas encore prononcé ce mot qui parfois peut être un peu naïvé, mais ces idéologies nouvelles, nées au tournant de cette révolution conservatrice des années 80, font évidemment encore partie du corpus de cette postmodernité intellectuelle dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Et donc, en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'à la place des universaux, nous sommes en présence aujourd'hui, dans la plupart des pays, dans les pays occidentaux, en Occident pour aller vite, nous sommes en présence d'un différentialisme postmoderne qui est aujourd'hui un habitus intellectuel et politique dominant chez ceux-là même qui s'étaient jadis constitués comme les gardiens de l'universalisme. En Occident aussi, ou peut-être en Occident surtout, je ne sais pas, l'universel est pris en tenaille entre les exigences de ce dieu marchand et les dérives de la critique de la modernité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs types, évidemment, de critiques de la modernité. Et je crois qu'on peut voir cet épuisement des universaux de l'Occident dans les contradictions des politiques occidentales et dans la déconnexion de plus en plus grande que l'on observe en Occident entre le dire et le faire. Alors, est-ce que cette déconnexion est proportionnelle au déclin de l'hégémonie occidentale? Peut-être. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaie d'analyser aussi. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, l'Occident n'est pas encore post-hégémonique, mais est entré dans le déclin de sa posture hégémonique qu'il a occupé, disons, allez, en gros, de la fin du XVe siècle à la fin du XXe, ou un peu avant, allez, à la fin de la guerre froide, on peut dire. Mais enfin, ne cherchons pas des dates précises. Raisonnons en termes de période, évidemment, plutôt qu'en termes de date. Et que ce début de la fin de son hégémonie fait qu'il lance aujourd'hui, il a lancé ces dernières décennies des entreprises néo-impérialistes, mais qui se différencient des entreprises néo-impérialistes dans le temps par le fait qu'à mon sens, ce sont des entreprises néo-impérialistes autoprotectrices, plus que conquérantes au sens premier du terme. Pourquoi ? C'est parce que l'Occident, me semble-t-il, n'a plus aujourd'hui pour horizon que la seule sauvegarde de son confort, c'est-à-dire d'un confort matériel acquis. Et la sauvegarde de ce confort ne peut s'acquérir que par la poursuite d'une accumulation indéfinie de biens. Et on est dans cette poursuite de l'accumulation indéfinie de biens. Bien entendu, quand on prend toute l'histoire de la modernité occidentale, allez, commençons-là à la Renaissance pour faire loin. L'intérêt a toujours pulvérisé les principes. Ça, c'est une vieille. Mais du temps des entreprises coloniales, comme du temps de la lutte contre le communisme, les principes ont toujours été appelés au secours des intérêts. Des principes manipulés, des principes instrumentalisés, mais ils ont été appelés au secours des intérêts. On a colonisé pour civiliser, disaient les Occidentaux. Et que donc, civiliser le monde était en harmonie avec le corpus de la modernité des Lumières. Ensuite, du temps de la guerre froide, opposer la liberté au totalitarisme était dans le même corpus de la lutte de la liberté contre les idéologies totalitaires. La différence avec aujourd'hui, avec ces grands moments, disons, où les universaux ont été portés au secours soit des entreprises impérialistes, soit, disons, de la lutte contre le communisme, c'est que la différence, c'est qu'aujourd'hui, les intérêts ne peuvent plus s'appuyer sur les principes. Et je crois que c'est une différence extrêmement intéressante à étudier. Pourquoi ? Parce que si les intérêts ne peuvent plus s'appuyer sur les principes, manipuler les principes, instrumentaliser les principes, mais les nommer, mais les avoir sous la main, les avoir présents, à ce moment-là, le discours occidental devient un discours totalement illisible. Et aujourd'hui, le discours occidental, en direction du reste du monde, est un discours illisible. Au nom de quel principe peut-on justifier en Occident, par exemple, certaines alliances ? Je prends des exemples dans le monde arabe, puisque je traite pas mal du monde arabe, évidemment, dans mon travail. Au nom de quel principe peut-on à la fois combattre Daesh en Syrie et en Irak et avoir pour allié privilégié l'Arabie Saoudite? Difficile, vous en conviendrez, extrêmement difficile. Au nom de quoi? Donc, quand je dis l'Arabie Saoudite, c'est comme métonymie de monarchies qui ont financé l'expansion mondiale non seulement de l'islam politique, mais de toutes ces pires extensions djihadistes. Alors, comment peut-on combattre Daesh d'un côté et avoir comme allié privilégié les financiers de ce type d'opération? Comment ou au nom de quoi peut-on critiquer l'extrême confessionnalisation du monde actuel que l'on a soi-même contribué à confessionnaliser? N'oublions pas que l'invasion américaine de l'Irak en 2003, par exemple, a totalement confessionnalisé la carte politique de la région, puisque les néoconservateurs américains ont lu l'Irak, ils n'y ont pas vu des Irakiens, ils ont vu des sunnites, des chiites et des kurdes. On oublie en passage d'ailleurs que les kurdes sont sunnites, ce qui leur a fait faire certaines bêtises, mais enfin, voilà, ce n'était pas les seuls. Donc, comment énoncer de l'universel quand les cultures et les civilisations sont réduites au discours produit par la religion dominante, ce qui est le cas aujourd'hui. Du fait, à mon sens, de ces contradictions et d'une révérence première, puisque je parlais du confort tout à l'heure, et cette recherche éperdue de la sauvegarde du confort, de cette révérence à un ordre marchand auquel tout doit être soumis, il n'y a plus de discours occidental de l'universel, ou plutôt, il y a une parole universalisante, déconnectée du sens, dans la mesure où ce qu'on a appelé le double standard n'a jamais été aussi systématiquement utilisé qu'aujourd'hui. Alors il y a une parole, mais une parole qui est totalement vide de pratique. Il n'y a plus de connexion entre la parole et la pratique. Et c'est sur ce substrat, à mon sens, qu'est assis le triomphe des discours différentialistes. Il y a une désertion du champ de l'universel. Elle est le résultat d'intérêts qui n'en a plus besoin de se trouver des justifications idéologiques. En fait, on se contente de remplacer des mots par d'autres mots et d'entretenir des fictions. Ainsi, la mondialisation marchande voudrait tenir lieu de succès d'année de l'universel. On en parle comme d'un succès d'année universel. Ce qu'il n'est pas, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Et donc, cette désertion des universaux est suivie par l'émergence de nouveaux relativismes qui renvoient chacun à ses différences réelles ou supposées. Alors, bien sûr, le différentialisme culturel a toujours existé. Ce n'est pas une invention des pensées postmodernes, bien sûr. Il a servi d'ailleurs les entreprises coloniales, évidemment. Et il est utilisé par les droites depuis longtemps pour justifier le cantonnement en résidence des populations non occidentales des pays d'immigration, pour justifier les entraves aux migrations. À l'autre extrême, a existé depuis longtemps ce qu'on pourrait appeler un relativisme positif des critiques relativistes de la modernité qui ont servi à saper l'homonymie entre occidental et universel, et à réhabiliter des situations non occidentales. Évidemment, je pense au relativisme lévi-straussien, par exemple, qui postule l'équivalence absolue, évidemment, de toutes les cultures. Mais il me semble que le culturalisme d'aujourd'hui, le différentialisme culturel d'aujourd'hui, n'est pas dans la filiation de ces relativismes-là. En fait, il postule la mort de l'universel au nom de l'irréductible spécificité de chaque culture. C'est ainsi que je pense que l'objet genre humain, sans remonter, et qui était une expression que l'on retrouve durant tout le 19e siècle, qui a été une expression récurrente, je ne vais pas remonter à l'international bien sûr, mais c'est une expression récurrente. L'objet genre humain a disparu des pensées postmodernes. Il n'y a pas de genre humain. Et c'est quelque chose aussi sur lequel il faut s'interroger. En fait, un des problèmes, et une des raisons pour lesquelles, à mon sens, cet objet a disparu, c'est que ce différentialisme culturel dominant que l'on voit aujourd'hui se déploie dans une époque où le couple religion-identité a remplacé le couple civilisation-culture. Il n'y a plus de couple civilisation-culture. On est dans religion-identité. C'est de cela qu'on parle. Et c'est de cela seulement que l'on parle. Chaque peuple est donc assigné, non pas à sa civilisation, on ne peut pas assigner à une civilisation d'ailleurs, on ne peut pas assigner à une civilisation dans la mesure où une civilisation est toujours plurielle, est toujours un mélange. Il n'y a pas de civilisation pure. Nous le savons tous, historiens ou autres que nous sommes, qu'il n'y a pas de civilisation pure. Et qu'il y a, en revanche, un fantasme de culture pure, et on est aujourd'hui dans le fantasme des cultures pures. Chaque peuple est assigné aux injonctions de ce qui est supposé être sa culture pure, c'est-à-dire aux injonctions de la lecture dominante de sa religion. De sa religion dominante, bien sûr. Et donc, cette prescription, on présente des injonctions identitaires comme l'essence même de personnalité collective. Alors, cette survalorisation du différent, du spécifique, de ces spécificités et de ces différences qui sont politiquement construites d'ailleurs, hein, ça évidemment on peut le montrer, conduit à proposer comme destin politique, et là je prends comme exemple les populations du monde arabo-musulman, que cette assignation aux différents, cette assignation aux spécifiques, conduit à leur présenter comme leur destin politique naturel, leur destin politique inéluctable, ou bien l'islamisme, l'islam politique. Puisque ce sont des populations musulmanes, l'islam est leur horizon politique. De même que, autre variante de la chose, le voile cesse d'être un signe de suggestion. Le voile est aujourd'hui polysémique, je le prends comme exemple, mais le voile, dans ses discours différentialistes, n'est pas un signe de suggestion des femmes, il devient la manifestation d'une appartenance identitaire. Donc, on déplace totalement les logiques. Et c'est très intéressant d'observer, les discours différentialistes occidentaux et les discours islamistes se rejoignent. Ce sont des discours qui se rejoignent totalement pour proposer le même horizon, c'est-à-dire un horizon du spécifique aux populations du monde arabo-musulman. Mais, des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien du côté de ce différentialisme qui devient une pensée dominante en Occident que du côté de l'islam politique, il faut rendre ces assignations identitaires présentables. Du côté des penseurs occidentaux, il faut rendre ces assignations identitaires présentables pour laver l'islam politique que l'on présente comme horizon, pour le laver de toute coloration totalitaire. Et du côté islamiste, évidemment, il faut rendre cette idéologie présentable pour être acceptable et trouver des alliés au sein des pouvoirs occidentaux, ce qui n'est d'ailleurs pas très difficile. Et c'est ainsi que sont nés, au cours des 20-30 dernières années, un certain nombre d'oxymores, dont le plus connu et celui d'islamisme modéré. On peut, pour comprendre pourquoi j'appelle cela un oxymore, c'est qu'évidemment, le terme d'islam et le terme d'islamiste sont des termes qui ont des contenus totalement différents. Je parle bien d'islamisme modéré, parce qu'on a, tendance à confondre islam, islamisme, islam politique, à tout mettre dans, une espèce de soupe dont on ne différencie pas les éléments. Je parle bien d'islamisme modéré, et donc, en fait, pourquoi est-ce un oxymore ? Parce que cet islamisme modéré serait compatible avec un fonctionnement démocratique, peu important par ailleurs, l'absolutisme idéologique dont il est porté. C'est-à-dire qu'on déconnecte une supposée possibilité de fonctionnement démocratique avec un contenu idéologique tout à fait précis et spécifique, d'autant plus précis et spécifique que jamais les mouvements de l'islam politique n'ont caché ce contenu idéologique. Ce contenu idéologique est public, lisible, étudiable, bien évidemment, dont tous les écrits, et Dieu sait qu'il y en a. Alors, premier oxymore. Deuxième oxymore, disons, qui est le pendant du premier, la laïcité. Et par nature, étrangère au peuple du monde arabo-musulman, puisque cette assignation aux spécifiques c'est fait qu'ils sont musulmans. La laïcité ou le sécularisme, donc est étrangère. Donc les partisans autochtones de la sécularisation de leur société deviennent, dans cette configuration sémantique, des extrémistes laïcs. Donc il y a des islamistes modérés d'un côté, il y a des extrémistes laïcs de l'autre, ce qui est extrêmement intéressant à étudier, puisque, nous disons, dans les dessins de ces sociétés, il y a d'un côté que l'on met en regard les extrémistes laïcs qui seraient le pendant laïque des djihadistes, par exemple, et les modérés. Et pour justifier, par ailleurs, l'injonction du port du voile, le respect d'autres prescriptions religieuses, tout en reconnaissant aux femmes un certain nombre de droits et un certain nombre d'acquis, on a également mis au point, qui est une catégorie compliquée, mais j'en parle quand même si je n'ai pas le temps de m'étendre dessus, la catégorie du féminisme islamique, que l'on peut également ranger au nom de ces oxymores, et qui est censée réconcilier la religion et les droits des femmes. Alors, évidemment, là je simplifie un peu, bien sûr, parce que là aussi tout est piégé. Il y a des légions de musulmans démocrates, bien entendu, instrumentalisés au nom de l'islamisme modéré, bien sûr. Il existe aussi des extrémistes de l'anti-islamisme qui refusent aux islamistes toute possibilité d'expression politique. C'est ce qu'on a appelé dans l'Algérie des années 80-90 les éradicateurs, par exemple. Bon, bien entendu. Or, l'islam politique, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou non, fait partie aujourd'hui du paysage politique du monde arabo-musulman, bien entendu. Il y a également des femmes musulmanes désireuses de cumuler des aspirations et l'égalité des sexes avec le texte normatif. Alors, toutes ces configurations-là existent. Mais le problème est que ces catégories, de même que les ambiguïtés et la confusion qui les entoure, cristallise les différences et expulse l'universel des pensées contemporaines. On peut être progressiste si on est progressiste islamique. On peut être ceci si on s'accorde avec le corpus supposé idéologique dominant. Voilà un petit peu, disons, ce que j'ai essayé de montrer, puisque je prends dans ce livre, donc, comme vous le disiez en introduction, le monde arabe comme métonymie, disons, du monde global. Parce que je pense qu'on a beaucoup étudié depuis ces dernières décennies le monde arabe comme on l'a enfermé dans son spécifique, et j'essaye, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas à le faire, de le sortir de son spécifique et d'en faire un élément de l'histoire de l'art, effectivement. Alors, tout cela, évidemment, et c'est par ça que je vais essayer de conclure, tout ça pourrait faire à croire que les universaux de la modernité sont en très mauvais état aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que ce que je viens de dire signifie que les idéologies du spécifique connaissent un triomphe historique et que celles de l'universel appartiennent au passé de l'humanité? C'est une question que je ne pense pas. En tout cas, j'essaie de démontrer qu'on n'est pas dans cette, dans ce déterminisme-là. Dans ce déterminisme-là. C'est-à-dire que l'universel n'a pas disparu des aspirations humaines, et j'ai choisi donc d'analyser les soulèvements arabes depuis 2011 à cette aune, à l'aune de où on est, où en sont les universaux aujourd'hui. Ces soulèvements, vous le savez, révèlent de très profondes ambiguïtés, de très profondes ambivalences de ces sociétés. Et mon ami Mbakela, dans un ouvrage qui est dans un langage totalement différent du mien, mais montre en partie ces ambivalences dans le cas tunisien. Donc, très profondes ambiguïtés, très profondes ambivalences dans la relation qu'entretient cette partie du monde avec la notion de l'universel et avec la modernité. J'essaie d'en faire une histoire dont je vous passerai les épisodes là, puisque évidemment j'ai pas le temps de le faire, parce que les tentatives de, et depuis plus d'un siècle et demi, hein, on peut l'histoire de cette relation heurtée du monde arabe avec la modernité, on peut la faire remonter en gros à la fin de la première moitié du 19e siècle, pour aller vite. Bon, donc ça fait maintenant quand même pas mal de temps. Mais les tentatives répétées dans cette partie du monde de s'approprier la modernité se sont toujours heurtées au primat de la norme religieuse et au recours à cette norme comme instance de légitimation du politique. Et évidemment, le recours à la norme religieuse comme instance de légitimation du politique a été un obstacle tout à fait important à, disons, à l'imprégnation de la société, des sociétés par cette modernité. Pour autant, les processus de sécularisation sont à l'œuvre dans les sociétés arabes. Pas forcément dans les discours, mais dans les mutations sociétales que l'on peut observer aujourd'hui. Là encore, on pourrait parler pour le Maghreb, par exemple, d'une transition démographique. C'est la seule partie du monde arabe qui voit s'achever aujourd'hui sa transition démographique. Si on prend un pays comme la Tunisie, c'est évidemment le statut des femmes. Enfin, je pourrais en donner un tas d'exemples que je n'ai pas le temps, mais il y a des phénomènes de sécularisation extrêmement importants. Et donc, les soulèvements arabes, les revendications des révolutions arabes, disons les soulèvements, sont le reflet de ces contradictions entre un rapport complexe, contradictoire aux universaux de la modernité et ces phénomènes de sécularisation, puisque vous savez que les revendications des révolutions ont puisé au registre de l'universel. Se sont inscrites dans un répertoire a-religieux, totalement, en leur début. Quand on prend les mots d'ordre révolutionnaires, que ce soit à Tunis, que ce soit au Caire, que ce soit en Syrie, avant que la révolution ne se transforme en guerre contre les civils, dirais-je, et non pas en guerre civile, ce n'est pas tout à fait la même chose, et dans d'autres pays, donc des revendications qui relèvent du registre de l'universel et du répertoire pas irreligieux, pas religieux, à religieux, totalement. Et, vous le savez aussi, en même temps, les idéologies du spécifique n'ont pas déserté les consciences collectives. Donc, il y a une tension extrêmement forte entre ces deux pôles contradictoires. Ce qu'il faut noter, et qui me servira de conclusion, c'est que, et je pense que cela est très important, et c'est peut-être cela qui, dans cette double impasse dont je parle, fait qu'il y a un petit trou dans cette douce impasse qui fait que l'impasse n'est pas totalement une impasse. Donc. C'est que la bataille entre universalisme et réclusion identitaire n'est plus, dans le monde actuel, une bataille nord-sud. Elle n'est plus une bataille entre l'Occident d'un côté, porteur de cet universel dont j'ai essayé de montrer qu'il est plus ou moins en lambeaux aujourd'hui, et des Suds, et en particulier un monde arabo-musulman, totalement rétif à cet universel. La chose est heureusement beaucoup plus complexe, puisque l'exemple arabe, mais on peut retrouver d'autres exemples, que ce soit en Extrême-Orient, en Chine ou en Birmanie, qui sont des exemples extrêmement intéressants à étudier, dans d'autres régions du monde, en Afrique subsaharienne, également le rapport à l'universel, d'ailleurs, n'est pas tout à fait le même, est extrêmement intéressant à étudier. Mais en tout cas, l'exemple arabe, pour rester dans celui-ci, montre que cette bataille entre universaux et idéologie du spécifique se joue à l'intérieur des sociétés, Ce n'est plus un débat nord-sud. Ce débat est un débat à l'intérieur de sociétés qui sont travaillées par des aspirations ambivalentes. Et que les universalistes des Suds, aujourd'hui, sont porteurs d'un discours, et vous me pardonnerez la redondance, d'universalisation de l'universel, de désoccidentalisation de l'universel. Je reprends là la formule d'un historien indien, Dipesh Chakrabarty, qui parle de la provincialisation de l'Occident aujourd'hui dans le monde actuel. Hein, bon, avec les Indiens, sont les historiens indiens sont les premiers théoriciens des études historiques postcoloniales. Alors, et donc, Chakrabarty parle de provincialiser l'Occident et déprovincialiser le reste du monde, ce qui est une perspective qui ne me semble pas du tout inintéressante. Donc je parle d'universaliser l'universel, c'est-à-dire de faire en sorte que cet universel cesse d'être un apanage de l'Occident, qui d'ailleurs le malmène par ailleurs. Et malgré les régressions, on pourrait dire, ce que dit Sophie Bessis en France, ce que je raconte, c'est du wishful thinking pur, puisque quand on voit ce qui se passe et les phénomènes de régression dont cette partie du monde est le théâtre, comment puis-je avancer que l'universel avance dans cette partie du monde? Effectivement, on peut penser que cette région est essentiellement marquée par des régressions vers le spécifique, vers des régressions dont les formes guerrières sont aujourd'hui, vous le savez, à l'œuvre dans tout le Moyen-Orient, bien sûr. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces régressions vers le spécifique actuel, tout à fait malheureusement présente, violente, totalitaire, ne sont pas une sorte de dernier combat qui peut durer des années? Les combats sont longs dans l'histoire, évidemment. Nous sommes dans le monde arabe aujourd'hui au début d'une séquence historique. C'est pour ça qu'il est absolument impossible de faire un bilan de ce qui se passe depuis 2011. On ne fait pas un bilan sur 4 ans. Vous savez, certains d'entre vous connaissent peut-être la formule, je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est apocryphe, de Schoenlai, qui avait reçu un dirigeant français, donc à l'époque de Schoenlai, ça fait assez longtemps, je ne sais plus de quel dirigeant français il s'agissait, et Schoenlai était un homme extrêmement cultivé, très, très cultivé sur l'histoire de l'Occident, et le dirigeant français en question, au cours d'une conversation très intellectuelle avec Schoenlai, lui demande « Que pensez-vous de la Révolution française ?» Schoenlai se tait un moment, et lui dit, je pense qu'il est encore un peu tôt pour se prononcer. Donc, vous pensez bien que je ne me prononcerai pas sur les soulèvements arabes. Je pense profondément que le monde arabe est entré dans une nouvelle séquence historique qui s'est ouverte en 2011. Et en cette période, l'Occident voit s'effondrer sa centralité. Ça aussi, ça prendra beaucoup de temps. Évidemment, cet effondrement de la centralité, elle ne sera pas en un an ou deux ans, ni même en 10 ans. Où les idéologies à base religieuse semblent pouvoir retarder les processus de sécularisation, incontestablement. Donc il y a un ralentissement de ces processus de sécularisation. Mais ces idéologies à base religieuse retardent ces processus, mais ne les empêchent pas tout à fait. Donc, là aussi, c'est une partie de l'ambivalence. Est-ce qu'on peut penser, vous pensez bien que devant vous, je ne formulerai aucune réponse, je me contenterai de conclure par la question. Est-ce qu'on peut penser qu'une modernité reformulée a un avenir dans des sociétés qui en ont été privées? Parce que les sociétés du monde arabe, comme d'autres sociétés du Sud, n'ont connu de la modernité qu'une instrumentalisation par les pouvoirs politiques, n'en ont connu qu'une modernisation technique, dépourvue des universaux qui l'accompagnaient. Donc, on connaît le moderne sans la modernité. Et aujourd'hui, les idéologies de l'islam politique sont des idéologies modernes. Je pense qu'un des plus grands contresens à faire est de dire que ce sont des idéologies archaïques. Certainement pas. Ce sont des idéologies du moderne, mais non pas des idéologies de la modernité. Et donc, est-ce qu'on peut penser que de nouvelles formes de modernité sont en train d'être reformulées ou peuvent être reformulées dans un avenir accessible, disons, dans des sociétés qui ont été privées? Dans quels espaces Est-ce qu'elles peuvent s'épanouir? Quels peuvent en être les acteurs? Entre ces deux types de fondamentalisme, plus complémentaires que concurrents, dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce que ces deux fondamentalismes, plus complémentaires que concurrents, qui sont proposés comme avenir du monde, est-ce qu'ils ont des brèches? Est-ce qu'ils ont des failles qui permettent de reformuler des universaux qui pourraient s'opposer non pas contre un seul des deux fondamentalismes, contre le seul fondamentalisme religieux? Ce serait à mon sens une erreur tout à fait grave, parce que les deux vont ensemble, et trop souvent on analyse l'un sans analyser l'autre. Et je ne veux pas trop dépasser, je vais laisser de la place au débat, donc je m'arrête là, évidemment je pourrais parler plus longtemps, et merci. Merci à vous.